Retransmission. L'émission qui donne à entendre des projets sonores venus d'ici et d'ailleurs. Des créations indépendantes sur des enjeux de société à découvrir un vendredi sur deux à 18h sur Jet FM. Aujourd'hui dans Retransmission, nous lançons le cycle Média, une série qui pendant deux semaines effectuera un croisement entre l'émission Retransmission de ce jour et Recherche du dimanche à 10h. Quelles sont les coulisses du journalisme? Quelle réalité d'insertion? Comment exercer la profession? Ou encore quel état faisons-nous aujourd'hui de la presse indépendante? Autant de questions explorées dans ce cycle qui démarre tout de suite avec le premier épisode du podcast de Mélissa Leroy, Introspection journalistique. Belle écoute sur Jet FM.
Ça va, vous appelez la Fédé, on parle pas la presse.
Pourquoi? Enfin, on est là publiquement. Pourquoi ne pas apporter une
parole? Parce qu'on n'aime pas les journalistes trop, parce qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, ils déforment.
Selon un sondage Ipsos de 2021, seulement 16% des Français font confiance aux professionnels de ce métier. De plus en plus de personnes l'abandonnent pour fuir la précarité et les cadences infernales à l'ère du numérique. Et pourtant, chaque année, des milliers de candidats se bousculent au concours des grandes écoles. Je vais en faire partie. Je m'appelle Mélissa Leroy, j'ai 22 ans et je veux devenir journaliste. Dans cette série de podcasts, je souhaite répondre à des interrogations que je me pose et que se posent d'autres personnes dans le même cas que moi.
Qu'est-ce qu'un bon journaliste et comment le devient-on?
Comment s'organise le système économique et politique du monde journalistique? Vers où se dirige-t-il?
Où se placent les écoles de journalisme dans ce système?
Est-on obligé d'y entrer pour accéder au métier?
Quelle est la place pour la diversité des profils dans les rédactions?
Pour répondre à ces questions, je suis partie à la rencontre de journalistes aux profils divers et variés. Chacune et chacun ont des visions différentes de leur métier et de comment l'exercer. Pour ce premier épisode d'introspection journalistique, je me suis entretenue avec la journaliste indépendante Elsa Gambin. Forte de son expérience d'ancienne éducatrice spécialisée auprès des adolescents, elle traite aujourd'hui de sujets sociaux. Pour discuter de son parcours, elle m'a donné rendez-vous au Café Flessel à Nantes.
Je suis journaliste indépendante, pigiste comme on dit dans le métier, uniquement en presse écrite. Aujourd'hui, même si j'ai fait de la radio auparavant. Et en parallèle, je fais de l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information, dans les collèges et les lycées.
Avant de rentrer complètement dans l'entretien, il faut bien comprendre ce qu'est une ou un journaliste pigiste. À l'origine, le terme de pigiste désigne un mode de rémunération. Depuis la loi Cressard du 4 juillet 1974, ces journalistes sont des journalistes professionnels qui bénéficient des mêmes droits que leurs collègues rattachés à une rédaction. La différence est qu'ils sont salariés d'une entreprise de presse sous un statut spécifique et payés à la pige, donc pour un article, une enquête, une vidéo ou un reportage. Chaque entreprise de presse décide de son tarif, mais elle doit tenir compte du minimum fixé par les conventions collectives quand il y en a. Donc théoriquement, les journalistes indépendants comme Elsa sont systématiquement rémunérés à la pige. Mais dans les faits, beaucoup de médias préfèrent payer en droit d'auteur, en cachet d'intermittent ou via des factures d'auto-entrepreneurs, ce qui est tout bonnement illégal. De plus, cette pratique ne permet pas à ces journalistes d'accéder à une carte de presse. La multiplicité des modes de rémunération et donc de statut de ces journalistes indépendants complique aussi le suivi de cette catégorie professionnelle. Il est très difficile aujourd'hui de connaître le nombre de journalistes pigistes en France. On peut cependant tenter une estimation. Selon le groupe Audience, qui gère le régime obligatoire de prévoyance et de retraite des journalistes, en 2017, un peu plus de 19 000 personnes ont perçu au moins un bulletin de salaire en tant que pigiste dans l'année. Ce chiffre ne distingue pas les pigistes occasionnels de ceux dont c'est l'occupation principale. Autre donnée disponible, celle de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Celle-ci recense ensemble les journalistes en CDD et les journalistes pigistes. Ils étaient de 8147 en 2022, soit environ 25% des 34 000 journalistes français avec une carte de presse. D'après ces données, on peut donc estimer, certes approximativement, qu'il y aurait en France entre 8 000 et 19 000 journalistes pigistes. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire et professionnel avant de devenir journaliste indépendante ?
Oui, j'ai un diplôme d'état d'éducatrice spécialisée. J'ai été éducatrice spécialisée pendant plusieurs années auprès d'adolescents. Dans la foulée de ce diplôme, je suis rentrée en licence de sociologie. J'ai été jusqu'au master 2 que j'ai validé. Et ensuite, j'ai fait un DU adolescent difficile à la Sorbonne.
Donc maintenant, ça fait 6 ans que tu es journaliste. Comment t'es venue du coup l'envie de devenir journaliste ?
C'est né tranquillement à la fin de mon master 2 de sociologie, où du coup je voulais transmettre ce que j'avais écrit à des travailleurs sociaux, parce que c'était un mémoire sur le travail social. Et donc j'ai décidé de faire un article de ce travail de mémoire de sociologie, un article qui a été publié dans la presse spécialisée. Et puis l'année d'après, j'ai fait la même chose pour le mémoire du DU. Voilà, j'ai fait un article de ce mémoire et il a aussi été publié. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit que ce n'était pas le seul sujet qui m'intéressait, qu'il y en avait plein d'autres, et que j'adorais écrire des articles. On m'avait appris à écrire des articles, plutôt des articles scientifiques à la fac de sociaux. Voilà, donc j'ai proposé des sujets ailleurs, à des médias, et c'est arrivé comme ça.
Tu avais aussi fait du coup du bénévolat dans une radio associative avant de te lancer ?
Ouais, j'ai fait 6 ou 7 ans de bénévolat en radio avant tout ça, enfin avant la sociologie, avant tout ça. C'est clairement une expérience qui m'a apporté énormément en journalisme aussi, c'est sûr, puisque j'ai d'abord été chroniqueuse, hein, c'était une émission sur le cinéma, j'ai d'abord été chroniqueuse, ensuite je suis montée en grade, si je puis dire, parce que j'ai animé cette émission pendant un certain nombre d'années. Ensuite, il y a eu une année où j'ai créé en parallèle une autre émission où je faisais des interviews longues, donc je devais aller voir des cinéastes ou des personnes pour parler de cinéma, et c'était vraiment... Ouais, ça m'a appris clairement à faire des entretiens, à faire des interviews avant la socio. Mais la socio aide aussi énormément à faire des entretiens. Mais c'est clairement une expérience journalistique bénévole qui m'a vraiment permis de découvrir aussi ce que c'était le journalisme, puisque j'ai pu aussi me balader dans... avoir des accréditations, même si c'était une radio associative, j'ai pu me balader dans des festivals, jusqu'au Festival de Cannes. Donc c'était vraiment une bonne expérience, ouais.
Comment se déploie ton activité aujourd'hui ? Avec quels médias tu travailles ? Quelle fréquence ?
Mon activité se déploie, il y a un énorme temps de, on va dire, de démarchage, c'est horrible de dire ça, mais c'est un peu ça, enfin de proposer mes sujets aux rédactions, donc il y a beaucoup, beaucoup de temps de mail, de trouver des sujets, de les angler, de les proposer, de relancer les rédactions qui ne répondent pas, puisque c'est assez courant. Et après, il y a des temps, alors soit téléphoniques, si évidemment mes interlocuteurs ou mes interlocutrices sont loin, oui, et puis des temps de reportage, quand c'est vers chez moi, dans ma région, des temps sur le terrain, et puis le temps d'écriture, qui finalement est un temps assez microscopique par rapport au reste, le temps de rendu de l'article et le temps merveilleux de la publication de l'article. Je travaille avec, alors j'ai pas forcément le chiffre en tête, je veux dire 7, 8, 9 médias, quelque chose comme ça, dont 3 ou 4 plus régulièrement. Il y a des médias avec lesquels je travaille très régulièrement, on va dire une collaboratrice régulière, et d'autres où ça va être beaucoup plus ponctuel, ce qui peut dépendre aussi du fait si le média finalement sort souvent, enfin est publié souvent ou pas. Et pour les médias avec lesquels je travaille régulièrement avec Télérama notamment, avec le média social, un média donc spécialisé en travail social. Donc là, j'écris plutôt sur la protection de l'enfance et sur les travailleurs sociaux. J'écris aussi pour Ouest France. J'écris pour la revue féministe La Déferlante. J'écris pour Médiacité. J'écris pour Slate, pour Vice, pour Basta. Et puis pour des revues pour ados aussi. Ça m'est arrivé d'écrire effectivement pour Le Monde des ados, pour la revue Topo. Voilà, j'en oublie certainement. Oui, il y a la presse féminine aussi. J'écris pour Marie-Claire et Elle.
Les journalistes que j'ai rencontrés auparavant me parlaient de la pige comme d'une période difficile dans leur carrière. Une épreuve où la reconnaissance professionnelle qu'on leur accordait était moindre et où la rémunération était si faible qu'ils étaient pressés d'en sortir. Ce qui m'a marqué dans le profil d'Elsa, c'est qu'elle a choisi d'être journaliste pigiste. Elle peut sélectionner les médias pour lesquels elle écrit et surtout, elle vit convenablement de son métier. Cependant, elle a la particularité d'avoir une double activité. Elle est journaliste indépendante, mais aussi formatrice en école de travail social et intervenante dans les collèges en éducation aux médias. Elle a donc à la fois le statut de pigiste pour sa profession principale et le statut d'auto-entrepreneuse. Dans son article « Renversement du stigmate et agir créatif, identité parajournalistique des journalistes pigistes », Faiza Naidbouda, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, nous dit que les journalistes pigistes correspondraient à une déclinaison de l'identité collective du métier de journaliste. De ce fait, ils n'auraient ni la même reconnaissance professionnelle, ni la même légitimité que les journalistes en CDI par exemple. De plus, ils auraient une représentation commune qui se traduirait autour du stigmate de précaire qui leur est socialement donné. Cette stigmatisation prendrait racine dans les discours professionnels et académiques. Mais cette précarité est-elle vraiment une stigmatisation ou prend-elle appui sur des faits réels? Selon l'Observatoire des métiers de la presse, en 2019, le revenu médian brut pour un journaliste en CDI était de 3 614 € par mois contre 1 970 € par mois en tant que pigiste. Un chiffre proche du revenu médian de la population française la même année, qui était de 1 940 € par mois, selon l'INSEE. Pourtant, cette précarité existe bel et bien. Dans une tribune publiée dans le journal Libération en 2019, un collectif de journalistes pigistes faisait état d'une précarité causée par certaines entreprises médiatiques. En effet, le collectif juge les tarifs de certaines piges indignes et dénonce le fait que certains médias les paient en retard, parfois 2 ou 3 mois après le travail fourni. Couplé au fait que les revenus des journalistes pigistes varient beaucoup en fonction des mois, cela renforce leur précarité. Ces conditions de rémunération difficiles se sont amplifiées pendant la crise sanitaire et sont encore d'actualité aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'a mentionné le collectif de femmes pigistes Tupige, dont Elsa Gambin fait partie, dans sa publication Instagram du 4 octobre 2022. Tu m'avais dit que tu avais travaillé aussi à Ouest France à tes débuts. Donc pourquoi ce choix de devenir indépendante ?
Oui, je suis restée 1 an ou 1 an et demi à Ouest France en CDD, qui était une expérience extrêmement enrichissante aussi pour moi qui n'avais pas fait d'école de journalisme. On m'a très bien formée là-bas. Après, j'avais pas de désir, moi, de travailler en rédaction sur le long terme. D'abord parce que j'avais envie de traiter plein de sujets différents, ce qui est possible dans la presse généraliste, mais... Là, avec ce que je viens de dire, voilà, il y a de la presse féminine, de la presse très engagée, de la presse un peu plus institutionnelle. Enfin voilà, moi, ça me plaisait de travailler avec des médias très différents. Et je ne suis pas faite pour l'actualité chaude, je ne suis pas faite pour écrire un article du jour pour le lendemain. Et je ne suis pas tellement faite non plus pour les formats courts. Voilà, j'aime bien écrire des articles longs, donc ça me prend des semaines pour rencontrer les gens, pour caler les interviews... pour découvrir les gens parfois. Et moi, j'ai besoin de ce temps long. Voilà, j'ai besoin de 2-3 semaines, parfois 1 mois, parfois même plus pour écrire un article. Et ça me convenait beaucoup plus. Et puis, il y a l'indépendance. Alors certes, j'ai des chefs. Enfin, je veux dire, toutes les rédactions en chef, il y a une forme de hiérarchie. Mais je suis chez moi, j'écris de chez moi, je décide de mes horaires, des jours où je travaille. Et c'est quelque chose qui me convenait beaucoup plus.
Tu as commencé en tant que journaliste, tu n'avais pas énormément de réseau. Comment tu as réussi à te monter un réseau et est-ce que ça a été difficile pour toi ou pas du tout?
Alors, peut-être que je suis hyper optimiste avec le recul. Je n'ai pas la sensation que ça a été très difficile. Le réseau, j'en avais pas du tout, effectivement. Je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas fait de stage. Je ne connaissais pas beaucoup, si ce n'est pas du tout, je ne sais pas, de journaliste avant de me lancer dans le métier. La porte d'entrée, c'était encore une fois la presse spécialisée. Je savais de quoi je parlais quand je parlais de la protection de l'enfance, quand je parlais du métier d'éducatrice spécialisée. Donc moi, j'ai commencé par écrire là-dessus, ce qui était finalement assez simple, entre guillemets, pour moi, même s'il fallait que je me décale. Enfin, il fallait que j'adopte une autre posture. J'étais plus éducatrice, j'écrivais sur le travail social. Donc moi, je suis rentrée par là. Vice aussi m'a pris des articles assez rapidement parce que les sujets plaisaient. Donc j'ai eu la chance, ou je sais pas, enfin... Et la deuxième chose, c'est de rentrer à Ouest France en fait assez rapidement. Après, quand on a un média comme ça sur le CV, bah, je pense que c'est plus simple aussi de continuer à démarcher. Donc j'ai pas la sensation que c'était très difficile.
En fait, on peut dire que ta spécialisation, ça a été un peu une autre entrée par laquelle tu as réussi à devenir journaliste, finalement.
Ouais, c'est sûr. Le fait qu'il y ait une presse spécialisée là-dedans, que je pouvais parler d'un métier que je connaissais, d'expériences que j'avais vécues, ou que là, j'avais déjà un réseau. Parce que pour le coup, moi, mon réseau dans le journalisme était nul. Mais en revanche, mon réseau dans le travail social, étant donné que j'avais travaillé dans plusieurs institutions et avec plusieurs associations auprès de différents publics, bah là, mon réseau, il était bon. Donc, pour faire des interviews, pour rencontrer les gens après, bah, c'était énorme. C'était facile pour moi, en fait, au niveau des contacts. Du coup, oui, la porte d'entrée, c'était celle-là. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la porte d'entrée aujourd'hui de pas mal de journalistes qui ne sont pas passés par des écoles. C'est une forme de reconversion, mais on part un peu de nos connaissances d'avant, de nos expériences d'avant pour rentrer dans le métier.
Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut devenir journaliste en faisant, du coup, ce que toi, tu as fait ?
Bah, c'est pas si vieux que ça, 6 ans. Donc j'ai envie de me dire que c'est encore possible pour celles et ceux qui veulent le faire. Après, je pense que tous les journalistes ont quand même une forme de spécialité ou de spécialisation. Et en tout cas, je pense qu'elles se travaillent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai des sujets de prédilection, je les bosse en fait en amont. Donc je lis tout ce qui passe de mes confrères et de mes consoeurs sur le sujet. Je vais lire des essais, je vais lire de la sociologie. Je vais interviewer des personnes concernées, des chercheurs, des universitaires qui connaissent le sujet, et ça va me permettre de l'approfondir et donc du coup de me spécialiser encore plus.
Comment tu perçois les écoles de journalisme ? Par exemple, est-ce que tu ressens des différences entre tes collègues, je vais dire entre guillemets, qui sont passés par des écoles de journalisme et les autres qui ne sont pas au niveau de la manière d'écrire les articles, la manière de faire des reportages, etc.
Alors j'ai effectivement dans mon entourage des confrères et des consoeurs qui sont passés par des écoles de journalisme. Pas tant que ça, mais un peu. Je perçois pas une grande différence dans le sens où j'ai choisi de m'entourer de gens qui sont, entre guillemets, comme moi, enfin voilà, très engagés et qui ont la même vision que moi du journalisme. Donc du coup, cette vision commune voilà, fait que je perçois pas la différence entre s'il y a formatage ou pas. Je pense que la différence, je l'ai sentie un peu au début, d'abord parce que j'avais probablement un syndrome de l'imposteur, de l'impostrice, qui est encore présent, même si j'essaye de le combattre, plus fort sans doute que certains ou certaines journalistes qui étaient sortis d'école de journalisme. Il m'était plus difficile au début, je pense, d'anglais à un papier. Maintenant, j'y arrive. Mais je pense que ça, comme je ne l'ai pas appris, c'était plus complexe pour moi. Et puis après, je n'ai pas fait, on va dire, une partie, mais de choses qui ne m'intéressent pas. Je ne maîtrise pas très bien, je ne maîtrise pas du tout d'ailleurs la vidéo, je ne maîtrise pas le montage. Voilà, je n'ai pas appris tout ça, tout ce qu'on peut, on va dire, les multiples facettes du journalisme qu'on apprend en école de journalisme, tout ça, je ne l'ai pas. Je suis presque une journaliste à l'ancienne, mais à une époque beaucoup plus contemporaine. Voilà, donc ça, c'est des différences que je peux percevoir. Sur le formatage, je vais le percevoir de loin, avec des jeunes journalistes plutôt, que je peux percevoir, certains et certaines, assez lisses dans leur manière d'aborder l'information et des sujets. Et c'est pas ma vision du journalisme qui est une vision engagée. Mais je sais, je pense et j'entends, notamment en rencontrant des étudiants et des étudiantes en école de journalisme, que certaines écoles en reviennent un peu. Alors, pas du mot formatage, parce qu'évidemment, ils ne l'ont jamais utilisé, mais en tout cas d'une forme de neutralité journalistique. Voilà, je sais qu'il y a des écoles qui reviennent de ça, et des jeunes journalistes qui n'entendent plus ça, en fait, et qui ne veulent plus l'entendre.
La question de la neutralité revient souvent quand on parle de journalisme. Lorsqu'un journaliste s'en écarte, on le lui reproche comme s'il sortait des règles de son métier. Mais concrètement, un journaliste peut certes tendre à être neutre, mais ne peut jamais l'être complètement. Que cela soit dans le choix du sujet, de l'angle ou des questions posées, il y aura toujours une part de subjectivité. La citation d'un article de l'INA écrit par le professeur Arnaud Mercier de l'Institut français de presse de l'Université Paris 2 est très parlante.
Tout regard est subjectif, au sens où nous sommes entraînés par une part de nous-mêmes lorsqu'il s'agit de porter son regard. Notre œil ne peut voir que ce qu'il sait déjà voir. Notre cerveau ne peut décrypter que ce qu'il a été préparé à pouvoir décrypter. Notre récit contient les mots que notre cerveau, mais aussi notre sensibilité, a aidé à formuler. Le choix des mots n'est jamais neutre.
Dans cette interview, Elsa Gamba entend par formatage la volonté des écoles de journalisme d'amener le plus possible les étudiants vers une neutralité journalistique. Dans le deuxième épisode de cette série avec la journaliste Ariane Lavrieux, nous verrons que cette démarche s'inscrit aussi dans la volonté des écoles de faciliter l'insertion professionnelle de ses élèves. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots, du coup, ta propre vision du journalisme et comment tu vois les perspectives du journalisme dans le futur ?
Eh ben, on voit qu'il y a une nouvelle génération de journalistes, beaucoup plus jeunes que moi. Je pense notamment aux journalistes de Blast, où c'est une forme de journalisme engagé, à la fois très frais et très décidé. Je pense que cette forme de journalisme, elle rejoint ma vision à moi. C'est pas simplement de donner des faits, dénués d'empathie et dénués d'explications et dénués de vision surtout. Je pense réellement, j'aime bien, ça va être une phrase un peu bateau, mais j'aime bien quand même. Je pense réellement que le journalisme doit faire bouger certaines choses. Et qu'en racontant des histoires, en portant des voix, en réalisant et en donnant accès à des témoignages, ça doit faire bouger des choses. Et je ne suis pas là juste pour dire « il se passe ça ». Je pense que le journaliste doit dire « il se passe ça », mais « il se passe ça de cette manière-là ». Les conséquences peuvent être celles-là, les causes sont celles-là, et comment on peut faire en sorte que ce soit différent.
Merci beaucoup Elsa pour être venue répondre à mes questions.
Merci à toi.
Demander à un journaliste sa vision du métier et du futur du journalisme peut paraître bateau. Mais il s'avère qu'il y a presque autant de visions du journalisme que de journalistes sur Terre. Comprendre vers où se dirige le monde du journalisme peut permettre de pouvoir nous y projeter en tant que futurs professionnels. Il est important de définir notre journalisme et les raisons pour lesquelles nous voulons faire ce métier. Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'introspection journalistique réalisé par Mélissa Leroy
avec les voix de Sarah Ludo et Titouan et la musique de Fortet.
Dans le prochain épisode, nous nous entretiendrons avec la journaliste indépendante Ariane Lavrieux. Elle a vécu en Égypte et a participé notamment à l'enquête Disclose, les mémos de la terreur. Nous parlerons ensemble de son parcours et de son point de vue sur les écoles de journalisme. À bientôt!
C'était Retransmission, l'émission qui donne à entendre des créations sonores indépendantes que vous pouvez retrouver en podcast sur jetfm.fr. Vendredi prochain à 18h, on se retrouve avec le deuxième épisode d'Introspection journalistique, un podcast de Mélissa Leroy. Et ce dimanche à 10h, le cycle média se poursuit avec une table ronde sur la presse indépendante. D'ici là, je vous souhaite une belle soirée sur JetFM.